RFI minuit à Washington, 4h en temps universel. 5h ici à Paris, Léa Boutin-Rivière pour l'actualité internationale. Bonjour Léa.
Bonjour Edouard, bonjour à toutes et à tous.
Votre journal d'abord est Kamala Harris qui veut rallumer une lueur d'optimisme face à un horizon que ses partisans jugent sombre.
La vice-présidente américaine, candidate déçue à la présidentielle, a reconnu hier la victoire de Donald Trump. Elle a appelé à éclairer le ciel de millions d'étoiles. On revient longuement dans ce journal sur le retour en force de l'ex-président américain qui provoque questions et inquiétudes sur la scène intérieure comme à l'international, économie, guerre en Ukraine ou encore immigration. Les Maliens vont-ils bientôt se rendre aux urnes ? À ce stade, il ne s'agit que de conjectures. Mais plus de 4 ans après le coup d'État d'août 2020, certains indices laissent penser à un futur rendez-vous électoral. Et puis l'Union européenne réunie autour de Viktor Orban aujourd'hui. Le Premier ministre hongrois reçoit une quarantaine de dirigeants européens. Au menu, l'élection américaine et la guerre en Ukraine. Battu, mais certainement pas abattu. Aux États-Unis, Kamala Harris a pris la parole il y a quelques heures. La vice-présidente américaine a reconnu sa défaite sans appel dans la présidentielle face à Donald Trump. Face à une foule de partisans en larmes, sonnés par l'écart inattendu entre les deux candidats, la démocrate est restée dans la ligne de son attitude pendant la campagne. Elle a voulu mettre en avant l'optimisme et l'unité plutôt que la division.
There's an adage an historian once called.
Je terminerai avec cet adage, les leçons de l'histoire, comme disent certains. Ce n'est que dans le noir le plus profond que l'on peut voir les étoiles. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez que nous entrons dans une période sombre. Pour notre bien à tous, j'espère que ce n'est pas vrai. Mais si tel est le cas, alors il nous faut éclairer le ciel de millions d'étoiles.
The light of optimism,
éclairer le ciel de notre optimisme, de notre foi, de la vérité et de l'engagement. Puisse ce travail nous guider, même face à la difficulté, vers des extraordinaires promesses des États-Unis d'Amérique.
Et pendant ce même discours, Kamala Harris a promis d'aider son rival dans la transition. Objectif, permettre un passage pacifique du pouvoir des démocrates aux républicains. Le président Joe Biden, lui, n'a pas encore pris la parole, mais il s'est déjà exprimé par un communiqué pour saluer Kamala Harris, une partenaire incroyable dont il a vanté l'intégrité, le courage et le tempérament. Le chef d'État sortant doit prononcer une allocution à 16h, temps universel. Une autre réaction attendue, c'était celle de l'ex-président Barack Obama. Il a soutenu la candidate démocrate pendant toute la campagne. Il s'est opposé farouchement à Donald Trump. Il a donc reconnu sa déception. Ce n'est évidemment pas le résultat que nous espérions. Mais il a tout de même félicité le futur 47e président des États-Unis. Vivre dans une démocratie, c'est reconnaître que notre point de vue ne l'emporte pas toujours, a-t-il souligné. Le principal intéressé, lui, n'a bien sûr pas boudé son plaisir. Après avoir proclamé sa victoire devant un océan de casquettes rouges, Donald Trump a échangé un coup de téléphone avec Joe Biden. Il s'est dit impatient de rencontrer le président sortant. Une réunion est prévue prochainement à la Maison-Blanche. Bref, le futur chef d'État semble déterminé à se mettre au travail. Reste encore à savoir de qui il compte s'entourer pour mener ses tâches à bien. Beaucoup de flou à ce stade, mais une chose semble acquise. Le milliardaire Elon Musk devrait avoir une place aux côtés du magnat. Et pour cause, le patron de X et Tesla n'a cessé d'apporter son influence et son soutien financier au candidat républicain Arthur Ponchelet.
Let me tell you, we have a new star.
Nous avons une nouvelle star. Une star est née.
A star is born, Elon.
Elon Musk aura occupé plus de 2 minutes du discours de victoire de Donald Trump. Entre les deux milliardaires, c'est la lune de miel. Pendant la campagne, le patron de X a mis sa fortune au service du candidat républicain qui, en retour, lui a promis une place de choix dans son administration. Pour Trump, Musk est un allié important, d'après Antoine Andréani, analyste des marchés financiers chez XTB Trading.
Trump a beaucoup apprécié ce que Musk a fait avec Twitter. Il a réduit le personnel des trois quarts. Le poids de l'État est trop fort aux États-Unis, mais il va essayer de le réduire. Je pense qu'il va utiliser Musk dans cette optique-là. Après, Trump pourrait l'utiliser également dans la cryptosphère. Musk est très positionné sur les crypto-devises. Là aussi, je pense que Musk pourrait avoir un rôle.
Donald Trump l'a promis pendant sa campagne. Il entend nommer Elon Musk à la tête d'une commission chargée de mener un audit financier du gouvernement américain avec un objectif taillé dans les dépenses publiques.
Et les conséquences économiques de l'élection de Donald Trump, on en parle bien sûr ce matin. Rendez-vous un peu après le journal de 5h, temps universel. Dans notre chronique aujourd'hui, l'économie, on discutera du coût de la politique protectionniste du républicain. Cette question de l'économie préoccupe aussi à l'international, car Donald Trump l'a promis, il veut augmenter radicalement les droits de douane avec la Chine, mais aussi, et ce sont ses mots, voler les emplois des autres pays en offrant les impôts les plus bas et en réduisant les réglementations à leur portion congrue. Ce qui n'a pas empêché les dirigeants du monde entier hier de le féliciter. Dernière réaction en date, celle du premier ministre japonais Shigeru Ishiba qui a salué un entretien très amical avec Donald Trump. Le président sud-coréen, quant à lui, envisage une rencontre d'ici la fin de l'année avec son futur homologue. Côté européen, le président français Emmanuel Macron a tôt hier félicité le candidat républicain, puis il l'a appelé. Ensemble, les deux hommes ont affirmé leur volonté d'œuvrer à la paix et à la stabilité. Un coup de fil qui était très attendu aussi, celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait tout faire pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Une position suivie de près par les pays de la région, tiraillés entre influence russe et occidentale, comme en Géorgie, englués dans une profonde crise interne. Régis Janté.
Sitôt assuré la victoire de Donald Trump, cela a été la course pour le féliciter entre les dirigeants politiques géorgiens sur le réseau social X le plus souvent, chacun soulignant les points communs entre leur programme et celui supposé du futur 47e président des États-Unis. Côté parti au pouvoir, le rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanishvili, qui vient de remporter une victoire marquée par d'énormes fraudes lors d'élections parlementaires, on s'est dit, je cite, « très heureux que la paix et les valeurs traditionnelles gagnent également aux États-Unis. Le premier ministre, Irakli Kobaridze, lui a exprimé son espoir d'une réinitialisation des relations entre les deux pays, le virage pro-russe de son gouvernement plaçant plusieurs dizaines de personnalités sous sanctions américaines. L'opposition, quant à elle, qui sort de mois de lutte contre ce qu'elle a appelé la loi russe sur les agents de l'étranger et qui est en réalité très inquiète du retour au pouvoir d'un Donald Trump dont on connaît l'admiration pour Vladimir Poutine, l'a souvent flattée en se disant confiante dans une Amérique doté d'un fort leadership. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi le conflit au Proche-Orient. À ce sujet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé hier Donald Trump. Les deux hommes ont discuté de la menace iranienne, contre Israël. L'armée israélienne qui poursuit par ailleurs ses frappes dans la région. 40 personnes au moins sont mortes hier dans de nouveaux raids contre la région de Baalbek dans l'est du Liban. Tôt cette nuit, Israël a aussi mené deux frappes contre le sud de Beyrouth. Aucun bilan n'a été communiqué à ce stade. Vous écoutez RFI, il est 4h08 à Bamako, où l'on attend toujours le retour à la normale politique. Plus de 4 ans après le coup d'État d'août 2020, et surtout plus de 7 mois après la fin officielle de la période de transition, aucune date n'a été fixée pour des élections, ni législatives, ni municipales, ni présidentielles. Mais cela pourrait bientôt évoluer, c'est en tout cas ce que suggère l'attitude de plusieurs figures politiques maliennes qui se préparent à une annonce d'ici la fin de l'année. David Bachet.
Le projet de loi de finances 2025 prévoit plus de 80 milliards de francs CFA pour les dépenses électorales. On saura après son examen par le Conseil national de transition mi-décembre si cette ligne budgétaire est maintenue, modifiée ou supprimée comme l'année dernière. Autre indice, la révision annuelle des listes électorales d'octobre à décembre, pour laquelle le gouvernement de transition et l'autorité dite indépendante de gestion des élections font d'importants efforts de sensibilisation. L'EJ a également entrepris pendant l'été de renouer le dialogue avec la classe politique pour un processus électoral inclusif. Tant qu'aucune annonce n'est faite, ces élections restent hypothétiques, mais de nombreuses figures de la politique malienne confient déjà se préparer. Adversaires ou soutiens maintien des militaires au pouvoir. Dirigeants de partis, anciens ministres, tous s'attendent à une annonce imminente. Peut-être à l'occasion du nouvel an, avancent plusieurs sources, pour des élections au printemps. Avril serait l'objectif. La plupart de ces sources, pas toutes, croient savoir que le désormais général Assimi Goïta, président de la transition, briguera sa propre succession. Certains observateurs restent dubitatifs et parient sur un maintien au pouvoir sans élection le plus longtemps possible. L'absence d'échéance officielle leur donne raison. Jusqu'à quand ?
Le décryptage de David Bachet à retrouver en version écrite sur notre site. Vous connaissez bien sûr l'adresse www.rfi.fr. Viktor Orban rayonne au centre du système européen ce jeudi. Le Premier ministre hongrois, qui assure la présidence tournante de l'UE, réunit aujourd'hui une quarantaine de dirigeants à Budapest pour le 5e sommet de la communauté politique européenne. Une rencontre informelle entre chefs d'État des 27, mais aussi leurs voisins et partenaires privilégiés, dont l'Ukraine, qui précisément, Carlota Morteo, devrait être au centre des discussions.
Budapest ne manque pas de somptueux palais, mais c'est dans un stade, le Ferenc Puskás, que Viktor Orban accueille ses homologues européens. Le Premier ministre hongrois, fan de football, a l'habitude de dire « la question n'est pas de savoir où se trouve le ballon, mais où il va se diriger ». Et c'est tout l'enjeu pour le vieux continent à l'heure de la victoire de Donald Trump. Le président américain réélu veut instaurer des droits de douane, se désengager de l'OTAN et a promis de mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures, ce qui supposerait une paix selon les termes de la Russie. Les pays européens, plus ou moins dépendants des garanties de sécurité américaines, vont-ils se diviser sur la stratégie à tenir dans leurs relations transatlantiques ? Le soutien à Kiev va-t-il faiblir ? Ou au contraire, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche provoquera-t-il un sursaut, une réponse coordonnée des Européens ? Ce cinquième sommet de la CPE, auquel participe aussi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, est l'occasion de prendre la température et pour le Premier ministre hongrois de savourer sa revanche. Viktor Orban est le seul dirigeant européen à avoir ouvert soutenu Donald Trump. Carlota Morteo, Budapest, RFI.
Et puis un mot de football pour refermer ce journal avec la suite et la fin de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, décidément pas très en forme, s'est incliné à domicile face à l'Atlético Madrid 2-1. Sans surprise, le FC Barcelone s'est imposé 5-2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis, l'équipe de Brest est toujours invaincue 2-1 hier face à Prague, ce qui place les Bretons quatrième au classement temporaire. Tout cela, on y revient bien sûr autour de 5h40, heure de Paris, dans le Journal des Sports. Et d'ici là, restez avec nous, on a encore un bon quart d'heure d'actualité internationale à passer ensemble.
RFI Matin. Léa Boutin-Rivière.
5h12 ici à Paris, 2h de moins en temps universel. On va bien sûr revenir au cours des 15 prochaines minutes sur les réactions après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Direction le Mexique où la prudence est de mise après les positions très dures du candidat républicain sur l'immigration. Direction l'Ukraine aussi, où face aux blessures psychologiques de la guerre, certains ont recours à une méthode encore taboue et surtout encore illégale, l'usage thérapeutique du cannabis. Et puis on terminera en musique avec ce mariage aussi inattendu que réussi entre les compositions de Bach et le balafon burkinabé. Face au traumatisme de la guerre, face aux blessures visibles et invisibles, comment lutter ? En Ukraine, ce sujet est devenu une véritable question de santé publique après plus de 2 ans et demi de conflit face à la Russie. Et de plus en plus, une pratique est testée pour soulager les soldats, une pratique encore taboue toutefois, utiliser le cannabis à des fins médicales. Depuis peu, le gouvernement a légalisé l'usage thérapeutique de cette drogue, mais les troubles post-traumatiques des militaires ne rentrent pas dans le champ de la loi. Pourtant, cerise sur le gâteau, dans la société civile, ils sont nombreux à se battre pour rendre accessible cette thérapie.
À la fin de l'été, le gouvernement ukrainien a décidé d'autoriser l'usage médical du cannabis, suscitant de faux espoirs. Sa culture sera strictement contrôlée en laboratoire et sa distribution étroitement encadrée. Pour beaucoup, la décision représente une avancée. Mais pour d'autres, le fait que les blessures du front ou le syndrome de choc post-traumatique dont souffrent énormément de soldats ne soient pas inclus est un leurre. Renadi Chabas est avocat et à la tête de l'association qui milite pour l'usage du cannabis thérapeutique.
Le gouvernement dit qu'on ne sait pas comment ça marche. Mais nous, on sait. On sait que nos soldats en utilisent. Ils en fument. Le stress post-traumatique, ça fait que tu ressasses sans arrêt une situation de stress. Tu ne peux pas dormir, pas te détendre. Tous nous disent que le cannabis les aide.
Pour l'avocat, il y a urgence.
Bien sûr, certains auront des effets secondaires. Mais si vous supervisez l'encadrement par un docteur, ça peut vraiment être plus bénéfique que de voir des soldats pratiquer l'automédication ou prendre du cannabis en solo.
S'il y en a un qui connaît le sujet, c'est Dmytro Isaïev. Cela fait maintenant 30 ans que le scientifique fait des recherches sur le cannabis. Jusqu'à cet été, il partageait son temps entre l'Ukraine et les Émirats arabes unis pour conduire ses travaux, la molécule étant strictement interdite en Ukraine.
Pourquoi cette plante est interdite? Même la cocaïne est utilisée en médecine. Elle est cultivée depuis 10 000 ans. Dans le tout premier ouvrage de Pharmacopée, 5 plantes y étaient répertoriées, dont le cannabis.
Le chercheur, qui expérimente sur des souris, s'est spécialisé dans le traitement de l'épilepsie. La loi va lui être utile car il va enfin pouvoir continuer ses recherches dans le pays, mais il espère qu'il aura d'autres avancées.
Cette loi est bénéfique pour la recherche, mais pour moi, le cannabis pourrait devenir courant et peu cher, comme l'aspirine. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, mais je suis convaincu que cela peut nous aider à remporter la victoire.
Même si certains députés portent encore le combat, les espoirs sont limités. Ils n'entrevoient une évolution que d'ici un an minimum. Cerise Sudre-Ledu, Kiev, RFI.
Et vous pouvez réécouter ce reportage à tout moment sur le site de Radio France Internationale, rubrique podcast. 4 ans après son départ, retour triomphal donc aux affaires pour Donald Trump aux États-Unis. Depuis l'annonce de la victoire du candidat républicain à la présidentielle hier, les réactions se multiplient. En Amérique du Sud, notamment, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, appelle ainsi de ses voeux un nouveau départ avec les États-Unis. Côté mexicain, il y a plus d'appréhension. On retrouve Gwendolina Duval à Mexico. Gwendolina, bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut bien dire que sous sa précédente administration, Donald Trump s'était montré très dur vis-à-vis de l'immigration. Et cette année encore, durant sa campagne, il a promis d'être intraitable vis-à-vis du Mexique et des Mexicains.
Oui, effectivement, quand Donald Trump annonce qu'il va lancer un plan d'expulsion massif et organiser le départ d'un million de migrants, c'est quelque chose d'assez inquiétant pour le Mexique. Quand on sait qu'il y a environ 5 millions de Mexicains sans papiers aux États-Unis, en plus le pays subit déjà les conséquences d'une politique migratoire américaine très restrictive et connaît actuellement une crise migratoire sans précédent, les flux de personnes ayant atteint des records ces dernières années. L'autre sujet important, c'est l'économie. Le Mexique et les États-Unis sont extrêmement dépendants l'un de l'autre en tant que premier partenaire. Et tout le monde au Mexique a en ligne de mire la révision de l'accord de libre-échange qui doit avoir lieu en 2026. À cause d'une politique protectionniste de Donald Trump et la guerre commerciale avec la Chine, le pays craint que ce qui ne devait être qu'une relecture ne se transforme en renégociation.
Pour autant, Gwendolina, pour l'heure, les réactions officielles se veulent plutôt rassurantes.
Oui, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a félicité Donald Trump il y a quelques heures avec un message sur le réseau social X. Elle lui dit qu'ils vont bien travailler ensemble. Après tout, ça s'était très bien passé avec son prédécesseur lorsque Trump était au pouvoir et Sheinbaum s'inscrit dans la même lignée.
Gwendolina Duval, notre correspondante à Mexico. RFI 5h18 à Paris, où l'on s'arrête un instant pour vous parler de cette rencontre entre le Burkina Faso et l'Europe, un dialogue entre la musique classique du vieux continent et les musiques traditionnelles burkinabées. Le chorégraphe Salia Sanou présente en ce moment dans la capitale française sa dernière création. Cela s'appelle « De fugue en suite », un spectacle inspiré de la musique de Bach qui épouse pour l'occasion la kora et le balafon. Au micro de Muriel Mahalouf, l'artiste burkinabé raconte comment est née cette idée.
Bonjour Salia Sanou.
Bonjour.
Alors, dans cette dernière création de fugue ensuite, hein, comment c'est venu cette musique de Bach?
Oui, j'ai eu le sentiment d'écouter Bach depuis mon enfance. C'est vrai, quand je suis arrivé en France, je découvrais cette musique classique et en dansant sur cette musique, je me suis rendu compte, en fait, Bach a été toujours présent dans mon enfance par le biais de la kora, par le biais du balafon, et aussi par le mot que portait la famille, la maman, les tantes, les sœurs. Voilà, donc pour moi, c'est une sorte de réminiscence, de retour en arrière pour se souvenir de cette enfance.
Sur scène, on a Bach tout seul et ensuite, on l'a avec le balafon et la kora. Alors, parlez-moi un peu de cette composition musicale.
Oui, la musique tient la danse tient la musique. Et j'ai souhaité vraiment qu'il y ait là aussi une rencontre véritable entre les fugues, les notes du piano et le balafon et la kora. Et ces trois instruments m'ont toujours, surtout le balafon, m'a toujours bercé depuis mon enfance. Et je ne pouvais pas imaginer danser sur Bach sans qu'il y ait aussi ce dialogue entre la musique classique de Bach et la musique classique aussi traditionnelle africaine qui est le balafon et la kora. Donc pour moi, c'était une sorte de rencontre naturelle d'arriver à faire cohabiter dans les résonances, dans les dialogues et dans une sorte de conversation.
Vous avez 6 interprètes sur scène et 6 danseuses. Pourquoi le choix d'avoir des femmes uniquement sur scène?
Moi, j'ai grandi au village en Afrique, à Léguéma, à Bobo Dioulasso. Les femmes sont là, celles qui bercent la vie. On les entend à la longueur des journées, pendant que parfois la voix des hommes sont absents, sont partis. Mais on est bercé constamment par cette voix féminine. Et en parlant de Bach, en dansant sur Bach, je me suis dit, il faut une voix féminine pour porter ce message et encore rendre un hommage à toutes les mamans du monde.
La plupart des danses sont des danses de groupe, donc c'est 6 danseuses qui bougent ensemble. Comment est née cette chorégraphie?
Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la conversation, du dialogue, de parler et de s'écouter. Donc, d'improvisation en improvisation, quelque chose s'inscrit dans le corps et petit à petit, on commence à tisser et puis l'œuvre s'installe.
Et il y a aussi une énergie très joyeuse qui se dégage de cette pièce. Ça a été volontaire d'avoir une pièce joyeuse?
Oui, c'était vraiment volontaire. C'est vrai que la musique de Bach, c'est très posé, mais la jonction entre les fugues et les suites et la kora de Toumani Diabaté, le balafon de Khalifa Emma, ça ne pouvait que nous rendre joyeux. Et dans ce monde brutal, je me dis, il faut amener de la joie.
Merci Salia Salmi.
Merci beaucoup.
Deux fugues ensuite, c'est jusqu'à vendredi soir au Théâtre de la Ville à Paris. La pièce est déjà, sachez-le, passée par Pau, Sète ou encore Le Havre.
Le Conseil Santé avec Sunwa Assurance.
C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme, le cancer de la prostate. En 2022, il représentait près d'1,5 million de nouveaux cas, soit un quart des cancers masculins. Il est donc très important de se faire dépister régulièrement. C'est le conseil santé du jour du docteur Frédéric Thibault, invité de Caroline Paré.
Docteur Frédéric Thibault, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Armand Briard à Nogent-sur-Marne en région parisienne. Quand on parle de cancer masculin, prostate ou testicule, est-ce qu'il existe des patients considérés comme plus à risque que la population générale?
Oui, absolument. Il y a il faut bien distinguer les deux. Le cancer de prostate, c'est un cancer qui survient plutôt à partir de la cinquantaine. Et il y a prédisposition familiale importante. Donc si vous avez votre père, vos oncles, vos cousins qui ont été touchés par cette pathologie, c'est particulièrement important de dépister, c'est la principale prédisposition. Le cancer du testicule, c'est vraiment le cancer de l'adulte jeune. C'est un cancer qui touche les gens entre 20 et 35 ans. Et ce cancer, il y a une prédisposition, mais qui est assez rare. C'est le fait d'avoir été opéré dans l'enfance de ce qu'on appelle une ectopie testiculaire. C'est-à-dire le fait que le testicule soit pas bien descendu pendant la vie embryonnaire et qu'on ait dû faire une petite intervention chirurgicale dans l'enfance pour le remettre en position. Et cet antécédent chirurgical, enfin cet antécédent d'ectopie, est un facteur de risque de cancer du testicule.
Et quand on disait tout à l'heure dépistage du cancer de prostate, c'est quoi l'examen le plus fréquent justement pour faire ce dépistage ?
Aujourd'hui, le dépistage du cancer de la prostate, il repose sur deux choses qui sont simples et accessibles. La première chose, c'est un examen clinique, un toucher rectal, c'est non douloureux, c'est rapide comme examen. C'est accessible. Et la deuxième chose, c'est une prise de sang simple qui s'appelle le PSA. C'est un terme anglais qui veut dire prostate spécifique antigène, qui est le dosage d'une protéine qui est fabriquée que par la prostate.
Merci docteur Thibault. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle des troubles dyscalculie, dyspraxie, dyslexie. Ces dysfonctionnements plus ou moins prononcés de fonctions cognitives qui peuvent compliquer l'acquisition, l'usage de la lecture, de l'écriture, du calcul ou même de certains gestes du quotidien. Comprendre et prendre en charge les dys, c'est à retrouver à 9h10, 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et pour vous faire patienter jusque-là, ce conseil santé et tous les autres sont à retrouver sur www.rfi.fr. Comme tous les matins, une petite échappée musicale avant de se quitter. Ce jeudi, RFI vous propose de partir en République démocratique du Congo, découvrir ou peut-être, qui sait, redécouvrir l'artiste Bazarba. Après un premier EP l'an dernier, il vient de dévoiler un nouveau single, Bolamano. Bon réveil sur RFI.
Fais perdre la conscience, bébé. Je ne sais pas comment t'as fait. Pourtant, nous deux, c'était ton pied, mon pied. Je sais pas comment t'as fait. Bah oui, c'est vrai, je t'ai pardonné. Mais pardonner n'est pas oublier. Je t'avais dit que tu vas regretter ta vie, comment la roue a tourné. Occasion, yo, soit bébé, yo, mon co. Ok, na, okata, singa. Kuno kenda ki indeli yo lingo zonye lanzungwa kala. Merci na yo bona buzobano lingi yo latisanga. C'est vrai que je t'aime encore, mais ko zonye la yo no go gate bébé. So ki lelo lingo zonga. Ola mala na ma benyo soyo sala. Wana peso sumo tema. Ola mano. Nenza time. Boli mwakala esinatika. Depuis nazwa moto asika. Azana ye simple. Ma ebi kokiti sa motema nanga soke mati. Ha ebi kosala makambo yo motema elingi. Bébé, yo moko, okena okata singa. Kuno kenda ki, indeli yo, lingo zonye lanzungwa kala. Merci na yo, bona buzobano, lingi yo latisanga. C'est vrai que je t'aime encore, mais ko zonye la yo no ko gate, bébé. So ki lelo lingo zonga. Ola, man. Na ma benyo soyo sala.
Nalili osama vi.
Bazarba, Ebola Mano pour refermer cette demi-heure d'information. Restez avec nous dans un peu plus d'une minute. C'est l'actualité africaine sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Igor Strauss.
L'écologie sera décoloniale ou ne sera pas, annonçait Malcolm Ferdinand dans son précédent livre. Aujourd'hui, le philosophe et politiste martiniquais publie « S'aimer la terre, défaire l'habité colonial » pour comprendre et interpréter le scandale du chlordécone qui a profondément pollué les Antilles.
C'est pas du vent, Igor Strauss.
Du mercredi au vendredi, à partir de 14h10 TU.
RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Nous sommes le 13 novembre 1974. Yasser Arafat est invité pour la première fois à la tribune de l'ONU. Le chef de l'OLP prononce un discours historique et fait basculer l'opinion publique internationale en faveur de la reconnaissance de la cause palestinienne.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.